Et bienvenue dans cette nouvelle émission de notre série consacrée à la thématique de l'histoire des Vosges et l'histoire d'Épinal. Et nous poursuivons cette série aujourd'hui avec vous, Jacques Grasser, bonjour.
Bonjour.
Je rappelle que vous êtes agrégé d'histoire et vous nous avez accompagnés déjà à travers de nombreuses émissions pour nous parler de l'histoire de ce patrimoine que nous avons dans les Vosges. Enfin, l'histoire des Vosges dans les grandes lignes. Maintenant, on va s'intéresser un petit peu au patrimoine. Et on a choisi ensemble de commencer par parler des fortifications, ces bâtiments qu'on peut trouver aujourd'hui un petit peu cachés dans certains recoins du département. Et il y en a pas mal autour d'Épinal. Mais avant d'entrer dans la description et le rappel de ces bâtiments qu'on peut découvrir aujourd'hui, qu'est-ce qu'on entend par fortification ?
Alors, je crois que vous avez raison. Il faut donner quelques explications parce qu'aujourd'hui, la période, on va dire la période militaire, n'est plus tout à fait propice à ce genre de construction. On ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, mais enfin, pour l'instant, on ne construit plus de fortifications, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à il y a 80 ans, puisqu'il faut se rappeler quand même que dans l'est de la France, on a vu se construire toute une ligne fortifiée, ce qu'on appelle la ligne Maginot, à partir des années 20, donc entre la guerre de 14 et la guerre 39-45, et que, parallèlement à cela, d'ailleurs, les Allemands construisaient eux-mêmes une ligne fortifiée de leur côté, qu'on appelle la ligne Siegfried. Donc voilà, ces fortifications qui ont été d'ailleurs complétées, c'est pour ça que c'est une histoire quand même assez récente, qui ont été complétées d'ailleurs après la Deuxième Guerre mondiale par des modernisations de certains de ces ouvrages dans le cadre des alertes atomiques, puisqu'on avait pensé que certains de ces ouvrages pouvaient éventuellement servir de postes de commandement enterrés à l'abri des bombes atomiques, et à l'abri des radiations, puisque la ligne Maginot en particulier était des ouvrages qui étaient en surpression de l'air, donc l'air extérieur ne pouvait pas rentrer à l'intérieur. Donc en cas effectivement de pollution d'origine nucléaire, effectivement on était protégé. Mais je rappelle aussi, parce qu'on ne se souvient plus de cela, qu'un fort à Épinal, par exemple, comme le fort de Deneuville, qui était un fort en partie bétonné et qui a été occupé jusqu'en juin 1940, on a pensé à un moment, effectivement, lui donner aussi une stature d'abri anti-atomique en cas d'attaque, en particulier venant du pacte de Varsovie. Alors pour les plus jeunes, effectivement, des auditeurs, ça ne dit sans doute rien, mais le pacte de Varsovie, c'est un pacte militaire comme l'OTAN, du côté occidental, qui entoure, pacte militaire, qui entoure l'URSS, donc l'Union soviétique, donc jusqu'en 1989. Donc c'est quand même une période un peu récente. Et on avait remis d'ailleurs, après la Deuxième Guerre mondiale, en état, un certain nombre de tourelles d'artillerie de la ligne Maginot, d'ouvrages en particulier du côté de l'Alsace, puisque dans le cadre des opérations qu'on appelle de Centre-Europe, on se méfiait d'une offensive de blindés, toujours du pacte de Varsovie, à travers l'Allemagne et approchant de la frontière française. Donc dans les années 50, début des années 60, c'est pas si ancien que ça, on avait encore effectivement des velléités sur la modélisation ou du moins la conservation en bon état de certains éléments de fortification dans l'est de la France. Voilà, donc c'était un peu une mise au point.
Donc ça, c'est quelque chose qui a continué jusqu'à récemment, mais ça a commencé quand ?
Alors, le commencement, on a des protections de fortification par fossé ou par mur depuis l'Antiquité. Si on veut remonter simplement à l'histoire vosgienne, on peut aller du côté du camp de la Bure au-dessus de Saint-Dié, par exemple, ou de la Pierre d'Appel, toujours au-dessus de Saint-Dié. On peut aller aussi du côté du Voie d'Aigle, donc sur la route de Darnay, entre Épinal et Darnay, où on a des structures de fortifications, avec à la fois des fossés successifs, par exemple, au Voie d'Aigle, des fossés, et puis des talus, puisque le résultat, quand on creuse un fossé, on a de la terre. Donc on en profite pour surélever le côté amont, c'est-à-dire le côté défense de la fortification. Et puis aussi, éventuellement, des murs. Si on a à proximité des carrières de pierre qui peuvent faire office, sinon ce sont des barricades de bois hein, un peu comme les forts du Far West, hein, avec des bois pointus au-dessus. Bon, le problème, c'est de faire en sorte que le défenseur soit obligé de déployer moins d'efforts que l'adversaire. Donc, d'avoir un effectif beaucoup moindre que l'adversaire. On voit dans certains... Quand on visite le Haut-Königsbourg, par exemple, en Alsace, bah, les fortifications, les garnisons que l'on peut trouver là, ce sont parfois des garnisons qui sont une dizaine, une quinzaine d'hommes, hein, en tout et pour tout. Mais il faut dire aussi que les armées qui attaquent ne sont pas très nombreuses non plus. Donc, on peut se porter d'abord à l'autre de la muraille pour pouvoir les défendre. Hein, c'est pas du tout, comme on le voit quelquefois dans certains films, une marée humaine qui va envahir avec des animaux, etc. Bon, il faut se garder de ça parce que on a tout un folklore, en particulier avec des films de fiction d'aujourd'hui, hein, je pense au Seigneur des Anneaux, par exemple, où on a des scènes de batailles gigantesques. Bon, c'est pas tout le cas, évidemment, de ce qui se passe dans la réalité, en particulier la réalité vosgienne.
Vous parlez d'une réalité, dans l'Antiquité, on parle de quelle population ? On parle de l'époque romaine, on parle des Romains ou on parle des civilisations celtes qui étaient là avant ?
Alors, là aussi, si vous voulez, c'est le naturel de l'homme de pouvoir se protéger. Bon, on peut remonter à la préhistoire, mais sans qu'on ait vraiment de documents, etc. Mais quand on regarde, par exemple, la campagne de César en Gaule, donc entre 58 et 52 avant notre ère, l'une des premières batailles dont on parle, c'est Gergovie. Gergovie, c'est un plateau au-dessus de Clermont-Ferrand. Si les Gaulois s'installent sur ce plateau, c'est pour ne pas faciliter la tâche à l'adversaire. Quand on parle d'Alésia, c'est la même chose. C'est une éminence. Alors, bon, je ne vais pas rentrer dans la polémique pour savoir où c'est, si c'est à l'Istintraine ou si c'est dans le Jura. Enfin, peu importe. Mais que ce soit dans un site ou dans l'autre, on a un site en hauteur que l'on peut fermer, que l'on peut fortifier. Et puis, on va avoir, par exemple, à Alésia, c'est très clair, hein, quel que soit le site, mais dans la guerre des Gaules, César le raconte parfaitement, où il va établir une double fortification autour de la fortification gauloise, cette fois pour à la fois contrer toute sortie des Gaulois, mais aussi pour se protéger d'une armée de secours. Hein, donc on a, bon, tout ça est très bien illustré, tout ça est bien connu, hein, donc, mais ce que je veux dire, c'est que dès cette époque-là, donc il y a 2000 ans, on avait déjà des plans avec des ingénieurs militaires qui essayaient de combiner à la fois l'attaque et la protection.
Donc on peut dire qu'à travers les siècles, on reprend les mêmes principes et on les adapte aux technologies ?
Alors, on a les mêmes principes, hein, c'est vrai, de se protéger avec des obstacles. Donc, ça peut être du bois, ça peut être ensuite, ça sera de la pierre. Quand on aura les moyens de tailler, effectivement, et de transporter des blocs de pierre, ce qui n'arrivera pas dans la fortification médiévale avant le 11e siècle, à peu près, avant c'est de la fortification en bois. Mais à partir du moment où on va avoir des outils métalliques qui permettent de tailler la pierre. C'est un peu le même problème que l'histoire des églises, où on va avoir le blanc manteau d'église à partir du 10e, 11e siècle, quand on est capable, effectivement, de pouvoir tailler des blocs de pierre en carrière et de les acheminer. Donc on a là, effectivement, un principe qui est toujours le même jusqu'au 20e siècle. On a même dans le détail, je rappelle souvent que si on visite des fortifications de l'époque du 19e siècle, donc celle dont on parlera pour Épinal, une fortification dite de Serré de Rivière, du général Serré de Rivière, mais aussi dans Imaginot, on a des principes de défense dans le détail des fortifications, qu'on appelle des machicoulis, par exemple, eh bien, ou des créneaux de pied, hein, ça c'est un terme un peu plus moderne, mais le machicoulis, le créneau de pied, ça existe depuis les châteaux forts, hein, c'est-à-dire c'est pouvoir déverser un tas de choses sympathiques sur la tête de l'adversaire qui arrive au pied des murailles pour le dissuader de pouvoir saper la muraille ou de pouvoir y appliquer des échelles. Hein, ce principe-là, où on ouvre une trappe au-dessus de l'adversaire pour pouvoir lui déverser n'importe quoi, ben vous le retrouvez à la fois dans les châteaux du Moyen-Âge, mais vous le retrouvez aussi dans les Maginot. Alors certes, c'est un peu plus moderne, mais c'est le même principe.
Donc on reprend les mêmes idées et on les adapte en fonction des époques.
Exactement.
Eh bien Jacques Grasser, je vous propose qu'on puisse commencer ce voyage dans le temps avec vous, mais ce sera dans une prochaine émission, puisqu'ici s'achève cette émission d'introduction pour la présentation justement de comment on installe ces fortifications. Je vous propose donc de poursuivre cette série consacrée à l'histoire du département des Vosges. À très bientôt sur cette fréquence, et je vous le rappelle, cette émission est à retrouver en podcast sur notre site internet.